France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la moitié de la France sous la neige. Premier flocon hier soir en Bretagne, ils vont gagner l'est de la France dans la journée. Première difficulté de circulation, plan grand froid, alerte, verglas. On fait un point complet dès le début du journal, Agnès, après les autres titres.
Il n'y aura plus de consentement possible lors d'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Le gouvernement prépare un projet de loi. Gros plan dans ce journal sur le volet transport de la future loi climat et résilience. Les explications très attendues de la présidente de la Commission européenne sur la campagne vaccinale poussive dans l'Union européenne. Et puis on connaîtra ce matin les nommés pour la prochaine cérémonie des Césars, une cérémonie marquée et par la pandémie et par le mouvement MeToo.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Variant, ce mot qui nous fait peur et à qui on adjoint une nationalité. Où en sont les variants anglais, sud-africains et brésiliens en France? Il est important de faire le point ce matin. Il est celui qui pilote les études flash sur lesquelles s'appuie le gouvernement. Le virologue, membre du conseil scientifique, Bruno Lina sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa. On sera ensemble à nouveau à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Un paysage de carte postale, surprise au réveil ce matin, avec plusieurs centimètres de neige, de la Bretagne à l'Alsace, une trentaine de départements sont en alerte orange, avec dès hier soir des restrictions de circulation, les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements, notamment dans toute l'Île-de-France, où la N118 est fermée. En Bretagne, où les premiers flocons sont donc tombés hier en fin de journée, ce sont 5 à 6 centimètres de neige qui recouvrent ce matin le centre-ville de Rennes, où l'on retrouve l'envoyé spécial de France Inter, Sébastien Sabiron, bonjour.
Bonjour.
Avec une ambiance donc très particulière ce matin dans les rues de Rennes.
Oui, une ambiance ouatée et plutôt silencieuse ce matin dans le centre-ville. Vous l'entendez, la neige craque sous les pas. Très peu de circulation. Les bus non plus ne circulent pas. Et certains, comme Marianne, l'ont appris à la dernière minute, un peu à leur dépens.
Normalement, le bus il passe à 5h30. Là, il est 50. Ce matin, il n'y a pas de bus apparemment. Donc, je dois retourner chez moi.
Pas de travail aujourd'hui?
Non. Malheureusement, voilà, on n'est pas payé non plus quand on ne travaille pas, donc voilà.
Sur la route, pas de grosses difficultés signalées jusqu'à présent. Il faut dire que la circulation des poids lourds est en grande partie stoppée depuis hier sur les grands axes. Mélinda vient de Béton, à une vingtaine de kilomètres de Rennes.
Normalement, on met 25 minutes, mais là, j'ai mis au moins 40 minutes à venir. Ça glisse un peu, surtout les ronds-points quand ça tournait ou sur la rocade, quand il y avait des virages, là par contre c'était plus compliqué. En ligne droite encore on peut gérer, mais quand il y a des virages, là, faut être prudent et puis aller doucement.
Et si la neige était tombée relativement abondamment en 2010, le précédent record date de 1986. 16 cm de poudreuse à Rennes. Souvenir ému pour Fabien, un jeune quadra qui s'est empressé hier soir de faire une bataille de boules de neige avec ses enfants.
J'ai dû connaître ça, je crois que c'était en 86, effectivement, où il y a eu un gros épisode neigeux. Et c'est des super souvenirs d'enfance qu'on a déjà et qu'on aura aussi avec les enfants d'ici quelques années.
Des élèves dont beaucoup pourront rester à la maison et profiter de la neige aujourd'hui. Comme hier, les transports scolaires sont suspendus dans toute la région Bretagne.
De belles glissades en perspective. Merci Sébastien Sabiron avec Eric Audra pour les moyens techniques. Vous l'avez dit, pour éviter les accidents, la préfecture a interdit dès hier soir aux camions de plus de 7,5 tonnes de circuler. 300 poids lourds ont donc passé la nuit sur des zones de parking. Johan Moisan a rencontré sur l'aire de Carmoran, près de Lamballe, Stéphane, un chauffeur routier originaire du Nord qui dénonce ces restrictions bien françaises.
C'est le problème français, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la neige, ils bloquent tous les camions et ça fait 19 ans que je roule. En Espagne, il n'y a que cette année où ils ont bloqué sur Madrid avec les fortes neiges, sinon on roule toujours. En Italie, on roule toujours. Benelux, on roule toujours. Angleterre, on roule toujours. Mais en France, on roule jamais.
Et pas de transport scolaire non plus aujourd'hui en Bretagne. La neige donc, le verglas et le froid. Le plan grand froid a été activé à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine, avec à la clé l'ouverture de gymnases pour accueillir les sans-abri. Froid glacial également dans la Somme. Hier, le thermomètre n'a pas dépassé 0 degré. Rude journée pour les ouvriers d'un chantier à Amiens. Reportage de Rémi Brancato.
Emmitouflé dans sa parka, Patrick pousse une brouette. L'ouvrier paysagiste dépose des copeaux de bois au pied des plantes. Le froid lui glace le corps.
C'est les mains surtout.
Pourtant, oui. Vous avez des gros gants.
Ouais, mais je crois qu'il pose quand même. Hein. Il a fait moins 7. Hein.
Alors, pour se réchauffer à la pause, ses collègues sont montés dans le camion.
On a des thermos de café.
Vous laissez tourner le moteur.
C'est ça, pour avoir chaud.
Parce que partout en extérieur, pour les travailleurs, les temps sont durs, comme ici, près de la gare d'Amiens.
On est dans le froid, moins 6 pour l'instant. À la longue, la journée, c'est difficile. Quoi. C'est les mains, les pieds, puis après, les muscles. Quoi.
David est chef de chantier. Il rénove l'étanchéité d'un pont. Et cet hiver, c'est encore plus dur, faute de bars et de restaurants.
Bon, on faisait des petites pauses, quoi, au café du coin.
Ça manque.
Un petit peu, ouais. Beaucoup même.
Les ouvriers comme Cyril et Rachid n'ont nulle part où s'abriter.
C'est des chantiers qui durent 2-3 jours, donc c'est trop compliqué de ramener des baraques de chantier ou quoi que ce soit.
Et c'est où la pause café ?
Dans le camion, moteur allumé pour chauffer un peu avant de reprendre le boulot.
Le moteur du camion, c'est votre meilleur ami là.
C'est ça, c'est le soleil d'hiver.
Pour autant, impossible de s'y réunir à plus de deux.
Il n'y a plus de convivialité entre les ouvriers quoi. On se voit le matin, on se dit bonjour de loin, on fait notre taf et on rentre chez nous le soir.
Avec ce froid persistant, les ouvriers s'attendent à devoir rester à la maison en congé intempéries.
Rémi Brancato à Amiens et les prévisions complètes à 7h27, les prévisions météo.
Avec Marie-Pierre Planchon. Il est 7h06, Agnès, le gouvernement renforce la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.
Avec une avancée majeure, lorsque la victime a moins de 15 ans, l'agresseur adulte ne pourra plus invoquer le consentement. Tout acte de pénétration sexuelle sera considéré comme un viol. Le garde des Sceaux et le secrétaire d'État chargé de l'enfance l'ont annoncé hier soir, après avoir consulté durant plusieurs semaines de nombreuses associations qui saluent ce premier pas, mais qui attendent plus en ce qui concerne l'inceste. Mathilde Dehimy.
Il y a des avancées, mais on a fait 10% du chemin, dit certaines associations. Il faut absolument écarter la notion de consentement quand il s'agit d'agression ou de viol sur mineur. Seuls les faits comptent. Mais le seuil d'âge, 15 ans, propose le gouvernement, est déterminant, dit Isabelle Aubry de l'association Face à l'inceste.
Est-ce que le seuil d'âge à 15 ans, qui est très bien, ça va être aussi pour l'inceste? Si c'est pour l'inceste, ça pose question parce que ça voudra dire qu'à partir de 15 ans et un jour, on peut être considéré comme consentant à l'inceste.
Les associations demandent un seuil de 18 ans en cas d'inceste. Le garde des Sceaux met cependant en avant deux exceptions possibles, qu'il y ait 5 ans d'écart entre la victime et son agresseur présumé pour ne pas pénaliser les amours adolescents et démontrer que l'auteur connaissait l'âge de la victime. C'est une faille, alerte Vanessa Sab, vice-présidente d'Enfance Majuscule.
Un buraliste, il vérifie les papiers d'un jeune avant de lui délivrer des cigarettes. Là, il ne s'agirait pas que ça soit encore une fois un moyen pour l'agresseur d'avoir gain de cause et finalement qu'il y ait impunité, encore une fois.
Certaines associations poussent pour rendre les viols sur mineurs ou l'inceste imprescriptibles. Le gouvernement propose une prescription glissante qui bénéficierait à toutes les victimes d'un agresseur, pour peu qu'un seul fait ne soit pas prescrit.
Et nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h et puis dans le sillage de l'affaire Duhamel. Le directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Millon, a annoncé sa démission hier soir. Et les témoignages se multiplient sur les violences au sein des IEP. Une enquête préliminaire pour viol ouverte à Toulouse, deux pour agression sexuelle à Grenoble et un signalement à la justice à Strasbourg. Sous le hashtag Sciencesport, c'est à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h08, la déception, Agnès, des membres de la Convention citoyenne sur le climat.
Alors que le projet de loi climat et résilience est présenté ce matin au Conseil des ministres, 65 articles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un tiers de ces émissions concernent le secteur du transport. Mais Célia Kiré, de nombreuses propositions de la Convention sont passées à la trappe.
Les citoyens proposaient la disparition des voitures les plus polluantes dès 2030. Finalement, seuls 1 à 3% des véhicules seront interdits à la vente. Ils demandaient la fermeture d'une vingtaine de lignes d'avions. Le gouvernement n'est pas allé aussi loin. Le texte rate sa cible pour Agathe Bounefour du réseau Action Climat.
Ce qu'a mis en place le gouvernement, c'est quelque chose qui avait été déjà annoncé au moment du plan de sauvetage d'Air France, c'est-à-dire de fermer 3 connexions aériennes, Paris-Bordeaux, Paris-Nantes et Paris-Lyon. Ça ferait baisser environ de 0,5% les émissions du secteur aérien.
Il n'y aura pas non plus de taxes poids lourds au niveau national, mais les régions pourront l'expérimenter. Et puis le grand absent, c'est le train. Le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, Benoît Leguet, est assez critique.
Il y a un certain nombre de dispositions qui étaient proposées par la Convention citoyenne qui n'ont pas complètement été mises en œuvre. Je pense notamment à la baisse de la TVA sur les billets de train. Nous, on l'évaluait à 1 milliard d'euros pour les dépenses publiques par an. Et l'autre chose assez marquante pour les finances publiques, c'est le renforcement de l'éco-contribution. contribution sur les billets d'avion, qui n'a pas été mise en œuvre, mais qui aurait pu rapporter au pouvoir public entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Le risque, c'est que les mesures ne se traduisent pas par des réductions d'émissions à la hauteur des enjeux, et il faudra payer plus tard pour les réduire encore plus, parce qu'on s'est pas mis sur la bonne trajectoire dès le début.
D'ailleurs, d'après le gouvernement, ce texte ne permettra pas de réduire les émissions de 40% en 10 ans, mais plutôt de 20%.
Et à 8h20, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, sera l'invitée du grand entretien d'Inter. Elle va devoir s'expliquer, la présidente de la Commission européenne, très critiquée depuis plusieurs semaines, sur la stratégie vaccinale de l'Union européenne. Angélique Bouin est à Bruxelles pour France Inter.
Pour le socialiste belge Marc Tarabella, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Seuls 3% de la population de l'Union européenne a été vaccinée, alors qu'il y a 16% de Britanniques. On dirait que tout le monde nous dépasse, alors qu'on a été parmi les principaux pourvoyeurs de fonds, ainsi que les États-Unis sans doute, pour financer la recherche qui a abouti au vaccin. Donc on est mal servi en retour par la toute-puissance des entreprises pharmaceutiques.
Mal servi en raison de l'amateurisme de la Commission, dénonce la centriste allemande Nicola Baer. Pour elle, Ursula von der Leyen aurait dû faire appel plus tôt à l'ancien capitaine d'industrie, le commissaire Thierry Breton.
Elle s'est clairement loupée dans la gestion de crise. L'Union a commandé trop tard les vaccins, il n'y a pas photo, parce qu'on n'a pas eu les spécialistes, les experts qui savent parler l'industrie. Il faut savoir faire. Et ça, c'était le problème.
Des élus qui ne contestent pas, en revanche, la stratégie commune d'achat à 27. Il y a eu des erreurs. On a peut-être trop tiré sur les prix, explique le luxembourgeois Christophe Hansen, membre de la droite européenne. Mais la méthode reste pour lui la bonne.
On a effectivement fait des achats à différents producteurs. Je pense que ça, c'est très important parce qu'on ne sait pas encore exactement quel vaccin va être efficace contre les différentes mutations. Donc, la stratégie à 27 est la meilleure dans le cas actuel.
Mais il manque de la transparence, ajoute nombre d'élus qui dénoncent depuis des mois l'opacité de ces contrats. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et c'est donc ce matin que l'on connaîtra le nom des heureux nominés pour la prochaine cérémonie des Césars, après le succès l'an dernier du film de Ladjili, Les Misérables. Le contexte a bien changé, moins de films éligibles et une gouvernance renouvelée qui n'aura pas la tâche facile, Corinne Pellissier.
Difficile après une année catastrophique pour le cinéma français d'avoir complètement le cœur à la fête.
Excusez ma grossièreté, adieu les cons.
Albert Dupontel et son film Adieu les cons fait partie sur le papier des éligibles à une nomination, mais sa comédie, sortie une semaine seulement avant la fermeture des salles au mois d'octobre, n'aura pas eu les mêmes chances d'être vue que celle, par exemple, du duo Carverne-Delépine, basé sur le même thème de l'absurde.
Donc vous m'avez offert un whisky, donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi.
Fallait-il, dans ces conditions, maintenir une cérémonie avec des récompenses ou tout simplement proposer une soirée pour redonner au public le goût du cinéma? Beaucoup de films sont restés cette année sur les étagères des distributeurs, mais ceux qui ont pris des risques ont connu pour certains de belles surprises au box-office. Caroline Vignal et Jean-Pascal Zadi, qui ont attiré chacun plus de 700 000 spectateurs cet été.
Mais un peu de maturité!
Ah, ça va! C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret.
Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça.
Récompensé le mois dernier du prix de la presse internationale que l'on dit souvent précurseur. Les votants devront départager 351 films, dont 135 longs-métrages. Moitié moins, quasiment, que l'année dernière. Une édition particulière, envisagée toujours avec des sketchs, une maîtresse de cérémonie, un orchestre et peut-être même un public dans la salle.
Oui, la question reste à trancher en fonction de l'évolution de l'épidémie. La cérémonie des Césars en clair, en direct sur Canal le 12 mars prochain.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes au Sénégal aujourd'hui sur la lutte contre le Covid à l'épreuve de la vie quotidienne.